Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du Mantois. Il est 8h03 et ce matin, nous accueillons Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines. Pierre Bédier, bonjour.
Bonjour.
Alors, durant ce rendez-vous, nous allons aborder plusieurs thèmes. On reviendra d'abord sur les résultats du premier tour des élections présidentielles. Je vous interrogerai ensuite sur vos investissements réels ou supposés à Hong Kong. Et puis, nous parlerons aussi des grands projets dans le Mantois, dont le département est un acteur financier important. Puis, nous finirons avec les élections municipales de Mantes-la-Jolie les 15 et 22 mai. Mais alors, pour commencer, lundi matin, un homme de 33 ans s'est rendu à votre domicile mantais pour s'en prendre à vous. Vous étiez absent, alors il s'en est pris verbalement à vos enfants en leur proférant des menaces de mort. Il a été interpellé et placé en garde à vue dans la journée et a expliqué son geste par le placement récent de ses enfants. Alors rappelons pour comprendre le contexte que lorsqu'une décision de placement d'un enfant est prise par la justice, c'est l'aide sociale à l'enfance qui est chargée d'en appliquer les modalités et que c'est un service du département. Alors d'abord, comment avez-vous réagi à cet événement et selon vous, comment endiguer ce phénomène de violence grandissante envers les élus? Plus 47% sur les 11 premiers mois de 2021, près de 1200 élus concernés.
Oui, c'est regrettable. Hein. Il faut préciser que le garçon a été hospitalisé d'office dans l'après-midi même. Hein. Donc c'est une décompensation psychiatrique. Hélas, il y en a de plus en plus. Alors les causes sont multiples sans doute. Hein. Je pense que l'utilisation de substances illicites, les chocs du confinement ont déstabilisé certains à la psyché un peu fragile. Voilà, c'est comme ça. Bon, pour le reste, c'est extrêmement désagréable. C'était surtout pour mes enfants. Moi, je n'étais pas là. Bon, il y a plus de peur que de mal. C'est la vie. C'est comme ça. Voilà.
Allez, abordons maintenant un autre thème d'actualité. Le résultat du premier tour des élections présidentielles. Alors, quelle analyse faites-vous de ces résultats?
Alors,
parce que c'est pas fameux, là. En tout cas, pour vous.
pour la formation politique qui est la mienne, puisque je préside de la Fédération des Républicains dans le département, c'est une catastrophe. C'est probablement la fin d'un cycle. Sous la Troisième République, il y a eu un grand parti qui a créé la Troisième République, qui était le Parti Radical et Radical Socialiste, qui est le parti père de la Constitution de la Troisième. Nous sommes, nous, les gaullistes, le parti père de la constitution de la cinquième, et peut-être qu'on a fini cette mission historique-là, donc il va falloir se réinventer, mais se réinventer radicalement. Bon, j'ai suivi cette campagne comme je devais la suivre, hein, président d'un comité de soutien donc de notre candidate, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, mais j'ai quand même été frappé par la pauvreté de nos propositions, rien d'original. Ça fait moi-même 30 ans que j'attends la même chose. Donc si moi-même j'en suis lassé, j'imagine que nos électeurs doivent l'être encore plus. Voilà, donc ayons le courage de nous reprendre en main et cessons de croire à un certain nombre de mantras qui sont faux. Je les ai encore entendus au bureau politique lundi matin, où on expliquait que jamais la France n'avait été aussi à droite. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire.
Il faut aller à la droite, extrême droite même,
d'abord,
surtout en
oui,
ce moment.
Hein. Mais d'abord parce que je pense que droite et gauche, ça ne veut plus dire du tout ce que ça voulait dire auparavant. Et je pense que l'appel à la protection, l'appel à l'égalité de nos citoyens ne sont pas spécialement les valeurs que notre formation politique porte. On porte plutôt des valeurs de liberté, et c'est pas celles qui se sont exprimées le plus fortement dans cette campagne. Donc je pense qu'il faut qu'on soit nous-mêmes plus clairs, plus innovants, et qu'on reparte avec un modèle qui soit plus attractif, un modèle intellectuel. Je nous trouve chiants, pour être très franc. Voilà, je démarre par un gros mot. Donc si on veut retrouver des électeurs, il faut avoir du peps.
Alors du PEPS, on va en parler justement avec les élections législatives qui arrivent là. Juste pour finir sur Valérie Pécresse, vous allez participer à sa quête?
Ah bah décidément ce matin ça démarre très très fort. J'avoue que j'ai eu d'autres préoccupations et pour tout vous dire, puisque vous allez me parler après de choses de désagréables, j'ai à payer un avocat pour me défendre de quelque chose dont je ne suis pas responsable. Donc, je suis aujourd'hui dans une situation personnelle. Alors, attends, je suis pas clochard, je suis pas la rue, hein. Mais je vais d'abord m'occuper de moi-même avec mes propres sous.
Alors, passons maintenant aux législatives, justement. Là, c'est une élection sur laquelle vous avez plus la main, parce que c'est une élection locale. Comment est-ce que vous envisagez cette campagne des législatives pour votre formation politique ?
Je crois qu'il va falloir expliquer aux électeurs que nous sommes et nous serons une opposition constructive, et il y a besoin d'une opposition constructive. Concentrer tous les pouvoirs entre les mains d'une seule femme ou d'un seul homme, c'est dramatique. Et on l'a vu dans le mandat passé, le Parlement est devenu un Parlement croupion, d'autant que désormais, avec la fin du cumul des mandats, on a des parlementaires inexpérimentés, enfin des députés inexpérimentés, et ça crée un puissant déséquilibre qui est pas bon pour la démocratie, qui est pas bon même pour faire avancer les dossiers du pays. Et donc, une opposition, il en faut une, c'est le principe de l'équilibre des pouvoirs, constructive, parce que dans le programme de Monsieur Macron, il y a des choses qui sont exactes. Moi, je suis pro-nucléaire depuis toujours. Je me réjouis que Monsieur Macron ait fait un virage pro-nucléaire. Je ne vais pas maintenant, parce que je suis dans son opposition, dire qu'il a tort. De même, je pense que nous n'échapperons pas, comme tous les pays du monde, l'éloignement de l'âge de la retraite, l'allongement, pardon. Et il faut avoir le courage de reconnaître qu'il faut aider Monsieur Macron s'il est élu. Alors, si c'est Madame Le Pen, il faudra sur ce point la combattre très fortement. Parce que Madame Le Pen, elle veut revenir en arrière. Comment peut-on la croire sérieuse? Comment peut-on la croire compétente? Le statu quo est impossible. Alors, le retour en arrière, encore moins. Quand vous êtes au bord du précipice, faire un grand pas en avant, c'est sauter dans le précipice.
Vous avez... annoncer que vous voterez Emmanuel Macron au deuxième tour.
Oui, je l'ai annoncé, moi j'ai pas attendu 20h02, je l'ai dit à 20h01, c'était extrêmement clair dans mon esprit. Je pense d'ailleurs qu'une des causes de l'affaissement de ma candidate, c'est sa déclaration du vendredi qui n'était pas claire, où elle donnait le sentiment qu'elle n'appellerait pas à voter pour Macron. Un certain nombre d'électeurs de la droite conservatrice libérale ne peuvent pas envisager de voter pour une extrême droite autoritaire et incompétente, et si ça avait été Monsieur Mélenchon, une extrême gauche fantaisiste.
D'ailleurs, vous avez une position claire, mais votre parti, dans un communiqué national, n'a pas clairement précisé les choses sur ce qu'il convenait de faire comme vote au second tour.
Je vous le confirme. Après, je suis bête et discipliné. J'espère un peu discipliné que bête. J'entends ce que fait mon parti. Nous sommes en réalité divisés entre ceux qui prônent le nini, c'est le cas dans les Yvelines, et ceux qui voteront Emmanuel Macron. Heureusement, aucun ne franchit le cap en disant qu'ils voteront Le Pen, même si peut-être que certains y pensent. Donc cette division, il faut aussi se poser la question de savoir si on peut continuer à vivre tous ensemble. Peut-être qu'il faut repartir sur des bases beaucoup plus claires. Alors normalement, les bases sont claires, puisque la charte de ma formation politique, Les Républicains, précise bien que une de nos vocations, c'est de lutter contre l'extrémisme. Je suis désolé, Madame Le Pen est une extrémiste. Madame Le Pen, elle veut nous faire sortir de l'Europe sans le dire. Bon, Madame Le Pen, elle veut mettre cul par-dessus tête des finances publiques qui sont déjà à l'os. Donc Madame Le Pen, c'est le populisme le plus dangereux qui soit. Et il faut le combattre de toutes nos forces. On n'a pas le droit d'avoir des hésitations. Enfin bon, c'est comme ça. J'espère que la clarification viendra.
Passons à un tout autre sujet maintenant, avec cet article paru dans le Canard Enchaîné du 30 mars dernier, dans lequel on apprend que vous auriez créé une société à Hong Kong avec Patrick Derore, dirigeant d'une société basée à Juzié. Alors suite à cet article du Canard, vous avez porté plainte pour, je cite, « faux et usage de faux et d'usurpation d'identité ou de données d'identification d'autrui en vue de porter atteinte à la tranquillité ou à l'honneur ». Alors réfutez-vous totalement les informations du Canard ?
Ah oui, totalement, c'est le Canard Enchaîné qui m'a appris la création de cette société. Alors après, ça m'a pas surpris de la part du Canard Enchaîné. Chaque fois que je lis un article sur moi dans le Canard Enchaîné, il est faux.
Ils vous aiment bien.
Alors non seulement ils m'aiment bien, mais ils aiment bien mentir sur mon compte. Alors ils le font toujours avec beaucoup d'astuces, ils mettent des points d'interrogation, ils traitent ça sur un mode humoristique. Donc après, ils sont inattaquables en diffamation parce que c'est un journal satirique. Alors c'est bien commode. Donc on peut mentir.
Ils apportent quelques éléments quand même. Enfin, vos numéros de passeport, par
mais
exemple.
Mais on mélange le vrai et le faux. Donc en mélangeant le vrai et le faux, on arrive à faire un salmigondi particulièrement subtil, mais faux. Totalement faux. Donc je réfute bien entendu tout ça. Je n'ai jamais créé de société Hong Kong. Je n'ai jamais créé de société d'ailleurs à l'extérieur de la France. Cette société ne vit pas. C'est donc quelque chose qui a été créé en 2016 exclusivement pour me nuire. Ça m'a d'ailleurs un peu déstabilisé. Comment peut-on être aussi pervers, aussi méchant pour aller imaginer une carabistouille pareille? Et il y a 6 ans de ça, avoir tapis cette affaire pour attendre l'opportunité de la sortir, c'est délirant. Non, tout ça est faux, la société n'a jamais marché. Il n'y a même pas eu d'ouverture de compte en banque. Pendant 2 ans, cette société a changé chaque année, parce que je me suis renseigné. J'ai un ami qui travaille à Hong Kong, un ami de promotion, donc il y a quelques dizaines d'années, on était dans une école de gestion ensemble. Et... l'ESSEC pour ne pas la nommer. Et cet ami qui a une société à Hong Kong m'a dit, ta société, elle est vraie. Il est allé, il l'a fait vérifier. Mais elle n'a jamais fonctionné. Jamais. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, très probablement par Internet. Et j'espère que la justice pourra retrouver des traces. Même si je donnerai quand même à la justice, je vais pas vous le donner à vous, mais un nom.
Justement, c'est la question
idée
que j'allais vous poser.
Ça vient d'où? On finira sur les municipales à Mantes. Les saisons électorales à Mantes apportent leur lot de fruits pourris, je suis habitué.
Mais vous pensez que ça a été préparé autant d'avance?
Je pense que ça a été préparé par quelqu'un que je connais, en attendant que ça puisse être utilisé dans une élection. Et comme l'opportunité se présente là, je vois bien le chaînage, donc j'ai 3 noms, mais que...
que vous réservez à la justice.
Si la justice m'interroge, je lui donnerai les 3 noms, et qui amène à un candidat qui est le 4e, voilà.
Alors, autre sujet sur lequel nous souhaitions connaître votre point de vue, c'est celui de la maison médicale située aux 2 rue de Lorraine à Mantes-la-Jolie. Alors, selon un article du Courrier de Mantes, cette fois-ci, qui s'appuie lui-même sur un autre article paru dans le Canard Enchaîné, décidément, votre beau-frère, pardon, Laurent Nicoulot et Patrick Deror auraient opportunément créé une SCI pour l'implantation de cette maison de santé. Alors, l'acquisition du foncier et du bâti se serait faite pour 650 000 euros. Ils ont ensuite bénéficié d'une subvention du département de 1,1 million d'euros et auraient ensuite vendu pour, je cite l'article, près de 6 millions d'euros le reste de l'immeuble à la société HLM Les Résidences que vous présidez. Alors, interrogé par le Canard, vous avez répondu, je vous cite, « Je ne le savais pas ». Quelle est votre réaction à ces articles ?
Je vous ai parlé de la société Hong Kong, je poursuis avec ça, d'autant que c'est faux. D'abord, je ne présidais pas lorsque l'acquisition a été faite, contrairement à ce que dit le Canard qui ne vérifie jamais ses sources, je ne présidais pas la société Les Résidences Yvelines Essonne. Le conseil de surveillance était présidé par Monsieur Cognier, maire de Mantes. Ensuite, nous n'avons jamais subventionné, nous, département, cette société, donc nous ne pouvions pas la connaître. Nous avons subventionné la ville de Mantes. Et c'est Monsieur Cognier, maire de Mantes, qui a choisi de mettre une maison médicale à cet endroit. Je pensais que c'était une bêtise. Moi, j'ai toujours dit, et d'ailleurs, nous avions fait une campagne électorale en 2020 en précisant qu'il fallait construire 2 maisons médicales à Mantes. Une à Gassicourt, car le désert médical est bien plus important à Gassicourt qu'au centre-ville. Il est sur toute la ville, mais il est beaucoup plus profond à Gassicourt. Et ensuite, il faut une autre maison médicale au Val-Fouré pour filtrer le service des urgences, qui est complètement dysfonctionnel de par l'utilisation qu'en font les habitants du Val-Fouré comme une maison médicale. Donc le médecin généraliste, c'est les urgences de l'hôpital. Et ça fait dysfonctionner les urgences qui sont des urgences absolument essentielles pour notre politique de santé dans le Mantois. Donc Vraiment, alors si il y a une opération où je n'ai rien à voir, et même j'étais opposé, c'est bien celle-là. Ensuite, alors je vous confirme que mon beau-frère a été en conversation avec Monsieur Doran, mais qu'ils n'ont pas fait affaire. Donc mon beau-frère n'est pas dans cette affaire. Et Monsieur Doran, il a le droit de faire des affaires privées. Je connais Monsieur Doran, je trouve Monsieur Doran extrêmement sympathique, c'est un entrepreneur, j'aime les entrepreneurs. Les gens qui créent de la richesse, parce qu'il fait travailler hein, des dizaines et des dizaines de personnes, et voilà. Et il a acheté un terrain à un particulier, il en a fait un immeuble qui respecte le code de l'urbanisme, après il gagne des sous avec, ou il en perd, j'en sais rien, je connais pas ses comptes, mais en tout cas, tout ça n'a rien à voir ni avec Pierre Bédier à titre personnel, ni même avec le département des Yvelines. Je rappelle que le département des Yvelines a subventionné la ville de Mantes.
Alors par rapport à cet article, est-ce que vous allez porter cette affaire devant la justice ?
Oui, c'est plus compliqué, on va demander. Alors le canard, on ne peut pas avoir de droit de réponse, donc on est en train de regarder les droits de réponse. Puis vous parlez du canard enchaîné parce que vous voulez épargner vos confrères du Courrier de Mantes
qui ont, je les ai cités, hein.
Qui ont fait un article ignoble, je suis habitué aux articles ignobles du Courrier de Mantes, sans même m'appeler. Le canard enchaîné, ils font au moins semblant de m'appeler. Le canard enchaîné, généralement, il m'envoie un message à 17h pour me dire, avant 19h, répondez-nous. Voilà. Le Courrier de Mantes n'a même pas ce micro-professionnalisme. Donc, on va faire des droits de réponse, on expliquera les choses, et puis voilà. Puis, il y a un moment, pardonnez-moi, je l'ai dit tout à l'heure, ça coûte des sous. Donc je me retrouve attaqué, obligé de me défendre, et je suis pas juriste, je suis pas avocat, et c'est pas cadeau un avocat, voilà.
En tout cas, vous avez pu vous exprimer, exercer une sorte de droit de réponse ce
matin. Et je vous en remercie, je n'ai rien à cacher, donc je remercie votre antenne. Mais il y a peut-être des sujets plus importants.
Eh bien justement, passons au volet des grands projets du Mantois et commençons par Éole. Alors pouvez-vous nous faire ce matin, je vais vous demander de mettre votre casque de chantier, là, un point sur les travaux, et puis surtout ce qui intéresse tous les usagers, avez-vous une date pour la mise en service ?
Alors, il a fallu retrouver, comme vous le savez, puisque ça a été beaucoup dit, 1,7 milliard. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le 1,7 milliard, mais on en a trouvé suffisamment, on a trouvé 650 millions pour faire que le chantier ne s'arrête pas. Il y a quelques mois, et croyez-moi, ça m'a bien plus préoccupé que ces histoires de diffamation du canard enchaîné et du Courrier de Mantes, j'ai eu quelques très très mauvaises nuits, parce que trouver cet argent n'était pas simple. Grâce à l'aide du préfet de région qui a fait un travail formidable, on a trouvé ses sous, donc le chantier a pu continuer, le chantier allait s'arrêter fin février, et j'ai vraiment eu très peur que la conclusion de tout ça soit « Éole s'arrête à la Défense ». Et on verra plus tard. Donc il fallait absolument poursuivre. Je rassure vos auditeurs, le chantier va se poursuivre jusqu'au bout, il est impossible maintenant de faire marche arrière, ça a recoûté 43 millions d'euros aux contribuables du département des Yvelines, mais je pense que c'est une bonne dépense. Et nous devrions avoir, alors on ne m'a toujours pas dit la date d'arrivée, qui est officiellement donc est toujours en 2024. Mon petit doigt me dit qu'il y aura au moins un an de retard. Mais enfin, sur un chantier pareil que j'attends depuis 30 ans. Cette année, ça fera 30 ans que je me bats pour ce dossier. Donc pour ceux qui disent qu'on m'a vu depuis trop longtemps, qui me laissent au moins finir le chantier Éole, parce qu'autrement, on allait se retrouver avec un chantier qui pouvait être interrompu.
Alors, cette arrivée d'Éole dans le quartier de la gare entraîne pas mal de remaniements et ça inquiète quelque peu les riverains. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ?
Alors, il faut dire à ces riverains, c'est un sujet d'ailleurs de divergence avec l'ancien maire de Mantes, que vous ne pouvez pas avoir un quartier gare sans que ça entraîne la construction de logements. Les gares ne sont pas faites pour desservir les champs de pommes de terre. Les gares, elles sont faites pour desservir des villes dans lesquelles vivent des habitants. Et plus il y a de trains, bah, plus il peut y avoir d'habitants. Donc oui, le quartier gare va grandir. Ce quartier gare, qui aujourd'hui est un quartier dans bien des endroits mal famés, va profiter de cette restructuration. Donc à charge pour les autorités municipales et communautaires, hein, puisque la communauté d'agglo est compétente sur ce dossier, de trouver le juste équilibre entre la construction de logements neufs et le maintien d'une certaine qualité de quartier. Il faut trouver le juste équilibre, il faut garder quelques très belles maisons. Il y a des maisons beaucoup moins belles avec de grands terrains sur lesquels on peut édifier des immeubles. Il faut que ces immeubles soient pas trop hauts, même si à proximité de la gare, On peut partir un peu plus en hauteur comme on le fait dans toutes les villes. Oui, l'arrivée des halls, ça va être un gigantesque plus pour l'immobilier. Pour autant, il faut qu'on encadre tout ça, qu'on l'encadre en densité, mais il y aura de la densité, il ne faut pas mentir aux personnes. C'est la logique même du système. Il y a un besoin de logement. Moi, dans mes permanences, on me demande du logement tout le temps. Donc oui, on va construire, mais on va essayer de construire de façon intelligente et avec une certaine maîtrise des prix, et en permettant aussi qu'il y ait du logement social, du logement intermédiaire, du logement en accession pour les jeunes ménages. Bref, un équilibre pour qu'il y en ait pour tout le monde.
Alors partons maintenant à Gassicourt, où l'IUT de Mantes va déménager pour aller s'implanter dans le quartier de Mantes Université à Mantes-la-Ville. À quel horizon ce déménagement est-il prévu ?
Normalement, on devrait avoir achevé, la même chose, en 2025, le nouvel IUT. Donc on a présélectionné trois équipes, architectes et entreprises, qui vont travailler. Et à la fin de l'année, on devrait choisir une de ces trois équipes et lancer après le chantier. Donc un chantier comme celui-là, ça dure au moins 2 ans, donc 2023-2024. Donc 2025, on espère qu'en septembre 2025, le nouvel IUT fonctionne. Et on est en train de chercher un usage. Donc il y a deux pistes au nouvel IUT. Ne me demandez pas ce que sont ces deux pistes. C'est encore, c'est pas un secret d'État, mais pour que ça puisse se faire, je ne peux pas le révéler à votre antenne. Mais je vous révélerai en exclusivité, vous me réinviterez. Alors, quand ça sera fait.
On a entendu dire que GPSO déménagerait dans ses locaux.
C'est une des deux pistes.
Mais j'en ai une. En fait, les deux, elles sont connues déjà.
Et c'est, quelle est la deuxième?
On parle d'une construction de gendarmerie.
La construction de gendarmerie, oui, mais pas là. La construction de gendarmerie va se faire sur l'espace qui est entre il y a un marchand de meubles dans oui. La ZAC des Bords de Seine. Donc entre ce marchand de meubles et le boulevard des Signes, il y a là un espace où pour finir la ZAC, il y aura une gendarmerie, la gendarmerie du boulevard du Maréchal Juin qui viendra là. Le conseil départemental va délibérer vendredi d'ailleurs sur ce sujet, donc vendredi prochain vous en saurez plus.
Eh bien on ira vous interroger sur ce sujet.
Avec plaisir.
Nous finissons notre tour de Mantes-la-Jolie à travers le prisme des grands projets, avec maintenant le quartier du Val-Fouré et le nouveau programme de rénovation urbaine de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Alors, quels quartiers du Val-Fouré vont-ils être rénovés ?
Ah ben pour l'instant zéro, parce que l'ancien maire a menti.
Expliquez-nous.
Il a signé un protocole avec l'ANRU sans avoir l'argent. Donc, on verra bien après les élections municipales. Mais
il était tout seul à signer à ce moment-là.
Mais il a menti à tous les partenaires. Il leur a dit il y a de l'argent à la communauté urbaine. Il n'y a pas d'argent à la communauté urbaine. La communauté urbaine donc, dénonce le protocole ANRU. Donc, il va falloir renégocier un protocole ANRU. Et je ne sais pas qui va vouloir payer. Donc on repart à zéro. Alors c'est pas le moment puisqu'il y a les élections municipales, mais il faut que les habitants du Val-Fouré sachent que je me battrai de toutes mes forces pour qu'on achève tous les quartiers et qu'on s'attaque à la dalle. Alors la dalle, elle est financée différemment, donc ce qu'on appelle la dalle CCM2,
c'est Mande 2,
ça, oui. Ça va se faire, parce que c'est une opération que je porte depuis 6 ans. Et donc, il y a l'établissement public foncier d'Île-de-France qui apporte des sous. J'étais encore en réunion avec eux hier. Donc, ça va se faire. Mais les rénovations de bâtiments, les modifications d'espaces publics, si on ne renégocie pas et sur une base réaliste et sans mentir, ça sera bloqué. Donc, il y a quand même une petite incertitude. Et c'est un des enjeux de l'élection municipale.
L'incertitude, elle est surtout pour les habitants du quartier.
Bien sûr.
Qui finalement font le constat qu'avec ces guéguerres en politique, leur situation est bloquée.
Alors, ce ne sont pas les guéguerres politiques. La guéguerre politique est une conséquence du blocage de la situation. Pendant 4 ans, Monsieur Cognier s'est tourné les pouces. La réalité, c'est celle-là. C'est pas faute, semaine après semaine, de lui avoir dit qu'il fallait prendre des décisions. La vie politique, c'est pas être aimé. La vie politique, c'est faire son travail. La vie politique, c'est remplir son devoir. C'est pas juste dire aux gens, oui, je m'en occupe. Oui, ne vous inquiétez pas. C'est leur dire la vérité. Et après, quand on a dit qu'on allait faire, le faire. Voilà. En tout cas, c'est la conception que j'ai. Et ces deux conceptions, car c'est aussi la conception de Jean-Luc Santini, vont s'affronter. Je regrette profondément, parce que je me suis trompé sur les qualités supposées de M. Cognier. C'est un séducteur, mais c'est certainement pas un faiseur, et c'est très souvent un menteur.
Donc, il n'a pas fait, il a menti.
Oui, énormément.
Et effectivement, vous l'avez rappelé, et pourtant vous l'avez soutenu. Il est issu
totalement. C'est une erreur.
De chez vous.
C'est une erreur. C'est une erreur.
Et comment peut-on se tromper à ce point?
J'ai pas de réponse, mais j'en suis pas fier.
Et n'a-t-il pas été guidé par ailleurs?
Après, moi, je me pose plus de questions. Moi, mon seul souci, c'est Mantes. Je me bats pour cette ville depuis 30 ans. J'ai encore de la force. Je pense pouvoir apporter, avec le conseil départemental, une certaine énergie. On l'a vu sur le projet de tiers-lieu. Je ne veux pas que tout ça s'arrête. Je veux que cette ville change, mais qu'elle change en respectant les habitants qui sont là et en accueillant les bras ouverts de nouveaux habitants qui ont envie d'y venir. C'est ça, la dynamique de Mantes-Unis. Et je voudrais que cette dynamique continue.
Alors justement, Mantes-Uni, parlons-en. Donc le candidat Jean-Luc Santini, que vous portez, là vous êtes sûr que lui-même...
Si je ne me retrompe pas, ben Jean-Luc, on travaille ensemble depuis 30 ans et Jean-Luc, hélas, a constaté la même chose. Si Jean-Luc et les trois quarts, je rappelle, les trois quarts d'une liste qui avait été choisie par M. Cognier lui-même, lui ont dit à un moment donné « ça suffit », c'est bien parce qu'il n'en pouvait plus de cette espèce de théâtre d'ombre où on faisait croire qu'on avançait alors qu'on reculait. Enfin, quand vous pensez qu'on a failli perdre la caisse primaire d'assurance maladie avec l'aval du maire, quand vous pensez qu'on a failli voir la CAF, donc un service public, quitter le quartier du Val-Fouré alors qu'on se bat pour y amener du service public. Enfin, quand vous pensez à la régression que l'on allait connaître, un retour en arrière invraisemblable, il fallait changer. Jean-Luc a parfaitement pris ses responsabilités. C'est ce que j'aime chez lui. Il aime Mantes et il sait prendre ses responsabilités. Croyez-moi, ce ne sont pas deux qualités, ce sont deux vertus.
Eh bien donc, vous appelez clairement à voter pour lui et vous serez sur sa liste. Hein,
je serai sur sa liste, je ne serai pas dans les premiers parce que je n'ai pas, contrairement à ce qu'on veut faire croire au Mantes, je n'inspire pas à diriger la ville, hein, j'ai suffisamment de boulot avec le conseil départemental, mais j'aspire à aider de toutes mes forces cette ville que j'aime et de le faire avec quelqu'un qui lui va la faire avancer.
Merci à vous Pierre Bédier d'avoir accepté cette invitation.
Merci infiniment.
C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Juste après, sans plus attendre, le journal d'information locale présenté par Pierre et ensuite jusqu'à 9h, la suite de la matinale avec Pauline et Frédo.
Pas le journal, hein.
Non, c'est pas le même. C'est ce que je me disais en l'annonçant. Et je précise enfin que cette interview sera retrouvée en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com dès 9h. Excellente journée à toutes et à tous.
Les rendez-vous du Mantois, tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.